Le progrès chrétien de George Whitehead, partie Vichy, Cromwell renversé, le roi Charles y est rétabli, puritain et presbytérien évincé, épiscopalien de retour au pouvoir en l'année 1660, le gouvernement du Commonwealth, sous lequel beaucoup d'entre nous avaient souffert la persécution étant presque expiré, on se prépara au retour et à l'accueil du roi Charles y, à la suite de sa déclaration en substance comme suit, dans la lettre que le roi Charles y envoya de Bréda, laquelle fut adressée à la chambre. Parce que la passion et le manque de charité de notre temps ont fait naître diverses opinions en matière de religion, par lesquelles les hommes se sont engagés en partie et en animosité les uns contre les autres, lesquelles, lorsqu'ils se réuniront par la suite dans une libre conversation, s'apaiseront ou seront mieux comprises, nous déclarons une liberté pour les consciences délicates, et que nul ne soit inquiété ni mis en cause pour des différences d'opinion en matière de religion qui ne troublent pas la paix du royaume, et que nous sommes. Cette déclaration et cette promesse ouvrirent la voie à une réception plus aisée et plus libre du roi lors de son retour et de sa restauration, beaucoup de dissides ayant l'espoir et l'attente que la promesse serait tenue. Mais quelques mois après son avènement, il advint qu'environ 35 personnes, appelées hommes de la 5e monarchie astérisque, fomentèrent une insurrection et des troubles dans la cité de Londres, contre le gouvernement, prétendant agir pour la monarchie et le gouvernement du roi Jésus, et s'imaginant qu'avec l'aide de Dieu un homme pouvait en poursuivre 1000 en détournant l'écriture, ils tentèrent leur coup avec une grande fureur et violence, jusqu'à ce qu'ils fussent réprimés et arrêtés. À la suite de cette insurrection, le roi prit prétexte pour publier une proclamation, dont voici quelques principes. Interdisant toutes réunions et conventicules illégaux et séditieux, sous prétexte de cultes religieux, etc. La raison en étant que certains effets funestes ont déjà suivi aux troubles de la paix publique par insurrection et meurtre, du fait des réunions des anabaptistes et des quakers et des hommes de la 5e monarchie et autres non semblables. Et afin qu'aucune de ces personnes qui ont présumé faire un si mauvais usage de notre indulgence ne soit affermie dans ces démarches. Aucune réunion quelconque des personnes ci-dessus mentionnées, sous prétexte d'adorer Dieu, ne sera en aucun temps désormais permise et autorisée, si ce n'est dans quelque église ou chapelle paroissiale de ce royaume, ou dans des maisons privées, par les personnes qui y habitent, et que toute réunion, assemblée quelle qu'elle soit, en vue d'un culte spirituel et du service de Dieu, par les dites personnes, à moins qu'elles ne se tiennent dans les lieux susdits, seront tenues pour, et sont par les présentes déclarées des assemblées illégales, et seront persécutées en conséquence. Et les personnes qui s'y trouveront assemblées seront poursuivies comme s'étant rassemblées de façon tumultueuse et illégale. Et nous voulons, et ordonnons, à nos juges de paix qu'ils fassent présenter le serment d'allégeance à toute personne amenée devant eux. Astérisque Pépis raconte comment 31 d'entre eux, en criant, le roi Jésus et les têtes sur les portes, jetèrent tout Londres dans la terreur. Ils mirent en déroute les trimbants compagnies de milices, mirent en fuite la garde du corps du roi, forcèrent les portes de la ville, tuèrent 20 hommes, et amenèrent chacun à croire qu'ils étaient au nombre de 500, tandis que chaque chef de famille s'armait et que 40 000 hommes se tenaient prêts à s'opposer à ces farouches fanatiques. Journal de Pepys Head, 1893 vol, IP. 319-322. D'après Valiant for the Truth de Ruth Murray, ce fut la folle flambée des hommes de la 5e monarchie, une secte apparue au temps de Cromwell, qui prétendait que le Seigneur Jésus allait bientôt venir établir son trône sur la terre. Sir Henry Vane était l'un des chefs de ce parti, et comme il était alors en prison avec les juges, ces puritains parlementaires qui avaient condamné le père du roi à être décapité de Charlier, on supposa que cette révolte fut en partie causée par le désir de le délivrer. Dans la nuit du 6 du 1er mois 1661, un tonnelier de vin du nom de Véné, dont l'esprit était dérangé, enflamma par une prédication véhémente quelques 50 ou 60 visionnaires, et ces hommes se ruèrent hors de sa réunion à Londres, proclamant le roi Jésus. La ville tranquille sommeillait, mais en quelques instants il y eut un grand tumulte. Les trimbants milices furent mobilisés, et les instigateurs de l'émeute s'enfuirent à la campagne pendant 2 jours, se cachant dans les bois. Le 9, ils revinrent en plein jour, dans la croyance fanatique que ni les balles ni l'acier tranchant ne pouvaient leur nuire. Ils forcèrent les portes de la ville, mirent en déroute toutes les trimbants qu'ils rencontrèrent, tuant plusieurs personnes, et mirent même la garde du roi en fuite. Ils furent finalement vaincus et la plupart faits prisonniers. Le reste tomba les armes à la main, criant que Christ venait bientôt régner sur la terre. Malgré le caractère insignifiant de cette flambée, un sentiment d'incertitude s'abattit sur la nation. On savait que nombre de personnes de haut rang appartenaient aux hommes de la 5e monarchie, et le comte de Clarendon, désireux d'établir une armée permanente, accrut les craintes du peuple en annonçant le danger d'une grande insurrection. Tous les dissides furent regardés avec suspicion, et les amis, bien qu'innocents de toute participation à des complots, durent subir de plein fouet la persécution qui s'ensuivit, des hommes armés dispersèrent leurs réunions. Dès lors, les gens les plus irréligieux et les plus profanes s'enhardirent et saisirent l'occasion de s'en prendre à nos réunions religieuses et paisibles, s'efforçant avec avidité de les supprimer, encouragés par les nouveaux juges de paix et magistrats récemment commissionnés. Les plus vils et les plus profanes, tels que les ivrognes, les blasphémateurs, les jureurs, les maudisseurs et les plus méchants de toutes sortes, exaltés dans leur esprit à la restauration du roi et à son accession au trône, triomphaient alors et insultaient tous les dicides religieux, menaçant surtout les Quakers et leurs réunions de ruines. Voyant quelle grande inondation de méchanceté et de débauche avait éclaté, et combien la religion et la vertu étaient méprisées, nous ne nous attendions à rien d'autre qu'à un traitement sévère et dur de la part de nos persécuteurs, dont le cœur était résolu à nous ruiner ou à nous extirper du pays. De sombres nuages apparurent alors, menaçant une grande tempête. À un certain moment, alors que je voyageais seul sur la grande route, en fervente supplication au Seigneur, exposant devant lui notre cause et ma plainte, dans une profonde humilité et contrition d'esprit, je dis en mon cœur et à haute voix, « Au Seigneur, cet esprit méchant de persécution qui s'est levé et se trouve déchaîné, cherchera à ravager et à extirper du pays ton héritage et ton peuple. Ô Seigneur, plaide notre cause, plaide la cause de ton peuple, de ta semence et de ton héritage. » Alors le Seigneur me révéla et me donna cette réponse, « Les méchants ne verront pas leurs desseins accomplis contre mon peuple, je contrecarrerai leurs projets iniques, ils n'extirperont pas mon héritage du pays, quoiqu'il leur soit permis pour un temps de persécuter et d'éprouver mon peuple, je me tiendrai à leur côté pour les défendre, et en temps voulu je les délivrerai. » Oui, et dans ce dessein, et bien davantage de même portée, le Seigneur m'a souvent, avec amour, fait savoir et révéler par son Saint-Esprit, même en des temps de profondes souffrances et d'épreuves, afin que, sous aucune d'elles, je ne défaille ni ne me décourage, mais que je vois assurément la bonté du Seigneur dans la terre des vivants, où les louanges lui demeurent à jamais. Après l'insurrection, et après que les coupables eurent été châtiés et que la proclamation eut été publiée, la persécution, l'outrage et la violence éclatèrent rapidement dans le pays. Persécuteurs, rugissants, furieux et affairés, s'employèrent à traquer d'autres en bas les réunions, assemblées et congrégations religieuses, que l'on appelait injustement des conventicules séditieux assemblées conspiratives, afin de les briser et de les disperser, et de faire emprisonner nombre de personnes dans des geôles immondes, où de grandes quantités d'innocents souffrirent, dans la plupart des comtés d'Angleterre et du pays de Galles, surtout parmi le peuple appelé Quakers, dont les réunions étaient les plus ouvertes et les plus faciles à inspecter. Les amis furent prompts à plaider et à faire connaître leur cause innocente au roi et au gouvernement, tant par la parole que par l'écrit, et à montrer combien leur réunion religieuse était, comme elle l'avait toujours été, exempte de toute sédition, complot, conspiration ou machination d'insurrection contre le gouvernement ou la nation, et qu'en conséquence elle n'était pas de ces réunions que la loi tient pour des conventicules, réunions illégales ou tumultueuses. Ainsi, les persécutions infligées contre nous, à cause des crimes d'autres personnes, alors que nous étions un peuple tout à fait innocent, apparurent comme une grave perversion de la justice, autant qu'un tort causé à plusieurs centaines de familles honnêtes et laborieuses, dont le Seigneur, en son temps, prit la défense en ces jours-là, et depuis, il s'est tenu auprès de son peuple fidèle et l'a aidé dans ses temps de besoin. Commentaire de l'éditeur du site. C'est ainsi que commença une série de persécutions, comprenant trois lois parlementaires nommant les Quakersoni, afin de les détruire délibérément. Le père du roi avait été décapité par un parlement révolutionnaire puritain dicide. Les alliés du roi étaient les royalistes des classes supérieures, principalement issus de l'Église d'Angleterre établie. Or, il venait de se produire une révolution de fanatiques religieux dicides, qui inspira au roi la crainte de tous les groupes religieux dicides. Il se tourna vers le seul soutien qui l'entourait, l'Église d'Angleterre, dont les membres le soutiendraient financièrement et combattraient de nouveau pour lui, comme il l'avait fait pour le rétablir, redoutant la possibilité d'une autre guerre. Les Quakers n'étaient d'aucun secours, ils ne combattraient pas si nécessaire. Les Quakers n'étaient pas non plus en mesure d'aider à faire élire une Chambre des communes favorable, car pour être électeur, il fallait prêter serment. Ainsi, les Quakers furent sacrifiés au profit d'intérêts temporels, sans crainte de conséquences, du moins de la part des puissances terrestres. L'Église d'Angleterre perdait des membres payants par troupeau au profit des Quakers. Certaines églises se vidaient d'auditeurs et de contributeurs, et elle était donc avide de détruire les Quakers. De plus, cette Église épiscopale nationale était accoutumée à persécuter les dicides, ayant pris sa revanche sur les puritains lors de la restauration du roi en remplacement du puritain Cromwell. Le roi, pour assurer son propre trône, s'allia au désir radical de l'Église d'Angleterre de détruire les Quakers par l'emprisonnement, la ruine financière et, à terme, le bannissement hors du pays vers les colonies tropicales, visant particulièrement les ministres et dirigeants qui convainquaient leurs membres payants d'abandonner leur Église. Ce qui suit est un récit partiel de mes propres souffrances et exercices en ces jours-là, bref récit de mon incarcération au château de Norwich avec d'autres amis, le 20e jour du 11e mois 1660. George Whitehead, John Lawrence, Joseph Lawrence et William Barbey, avec beaucoup d'autres de nos amis, se réunissaient paisiblement pour le culte et le service de Dieu à Pulham Mary Norfolk. Tandis que nous invoquions le Seigneur dans la prière, un homme du bureau du grand constable, avec une troupe de cavaliers et de fantassins, sans mandat d'aucun juge, vint muni de hallebardes, pistolets, épées, fourches, gourdins et piques de haie, et nous traîna, nous et d'autres de nos amis, hors de la réunion. Le lendemain, on nous emmena à cheval sur plusieurs milles, et on nous conduisit devant Thomas Talbot, juge de paix, près de Wymondham, ou Windham, qui nous fit incarcérer, sur la base d'une information que le constable lui remit par écrit au sujet de la réunion, où nous fûmes faussement accusés de nous être réunis illégalement. Personne ne se présenta pour prouver l'accusation contre nous. Néanmoins, le lendemain nous fûmes envoyés au château de Norwich, la persécution étant alors généralement excitée contre nos amis en particulier, dans toute la nation, et la plupart des prisons en étaient remplies, à cause de leurs réunions religieuses. Dans cette geôle du château de Norwich, beaucoup d'entre eux avaient été enfermés, et leurs réunions troublées et dispersées, d'un bout du comté à l'autre, ainsi que dans la ville de Norwich, qui est un comté distinct. Nous étions si entassés dans le château que nous n'avions pas assez de place pour dormir, 30 ou plus étaient entassés dans cette vieille prison sale. Comme il y avait, dans un coin du mur du château, un trou appelé la vis, 4 amis prirent cet endroit pour dormir, quoique ce fût un trou étroit, sans cheminée, pourtant nous y installâmes 2 petits lits, et nous dormîmes 2 par lit. C'était des quartiers et un logement fort rude, faute de cheminée. Une vieille voûte de pierre, délabrée, le surmontait, laissant entrer tant de pluie sur nous que nous ne pouvions l'empêcher de tomber sur nos lits, bien que nous eussions placé des bassines pour recueillir ce que nous pouvions. Par temps froid, nous brûlions un peu de charbon de bois le soir, ce que nous trouvions quelque peu nuisible et suffocant, n'ayant pas de cheminée pour évacuer la fumée ou la vapeur, et le jour, nous tâchions de nous réchauffer en marchant sur la colline du château et le long du mur, jouissant de la liberté de la prison. Bien que ce fût un lieu froid et battu par les vents en hiver, nous étions heureux d'avoir ce bénéfice de l'air frais. Bien que le trou dans le mur fût un logis si misérable, nous le choisîmes pour y coucher, en partie pour soulager nos amis, beaucoup trop entassés dans la meilleure pièce en bas, à l'intérieur des murailles du château. Nous eûmes ensemble de nombreuses bonnes réunions consolantes sans trouble. Plusieurs personnes bien disposées avaient été admises en prison pour se réunir avec nous, surtout les premiers jours. Ainsi, en ce temps-là, la prison nous devint un sanctuaire, comme les prisons et geôles le furent pour beaucoup de nos pauvres amis innocents et souffrants. Alors que la persécution était ardente et que les persécuteurs, au dehors, rageaient et rugissaient, nous prions et louions le Seigneur notre Dieu, dans les prisons, les geôles et les trous. Nos amis William Barbey et John Lawrence, ayant été des hommes connus et capitaines au temps du Commonwealth, montraient là une grande abnégation et une soumission à la croix du Christ, en souffrant patiemment pour son nom et pour la vérité, dans un logement si pauvre et inhospitalier. Je me souviens d'un matin, alors que nous étions au lit, où Joseph Lawrence, avec son agrément coutumier, dit à son frère John, « Au capitaine Lawrence, j'ai connu le temps où vous ne vous seriez pas couché ici, c'est-à-dire dans un lieu si méprisable, ou un logis si pauvre que celui-là, car les deux frères et William Barbey avaient à tous égards d'excellentes commodités dans leur propre maison, bien qu'ils fussent alors participants aux souffrances des disciples du Christ. Pendant cet emprisonnement au château de Norwich, vers la fin de l'hiver, ou au commencement du premier mois 1661, je tombai malade d'un accès de fièvre intermittente et de fièvre, ce qui m'affaiblit tant que certains amis venus me visiter étaient prêts à me faire leurs adieux, pensant que je mourrais dans cette prison. Elizabeth, la femme de John Lawrence, se trouvant un jour à mon chevet, dit « Ah, pauvre cher George, je crains que nous ne devions nous séparer de lui, ses voyages parmi nous touchent à leur fin. Mais en quelques jours, il plut au Seigneur de me rendre quelques rétablissements et des forces. Cependant, un jour sur deux, une très mauvaise crise de fièvre intermittente et de fièvre continua quelque temps. Une nuit, après m'être couché, je fus très incommodé par la fumée d'un petit feu de charbon de bois dans la pièce, et je demandai instamment qu'on l'éteignît sur le champ, sinon je doutais de vivre jusqu'au lendemain matin. On l'éteignit donc immédiatement, et je fus promptement soulagé. Le temps de notre comparution aux assises de printemps à 7 feux d'approchant, je crus que je serais en état d'y aller à cheval, car nous devions tous y comparaître, nous qui étions prisonniers à cause de nos réunions religieuses, et afin de nous rendre aux assises, mon cheval fut amené à la porte de la prison 3 jours avant l'ouverture des assises. Je partis à cheval, avec John Lawrence jusqu'à sa maison de Ramplingham, le 7e jour de la semaine, à 5 ou 6 milles sur ma route vers Thetford, et j'y restai le jour et la nuit suivant. Ce jour-là, j'eus de nouveau une très mauvaise crise de fièvre intermittente, mais j'allai mieux avant le lendemain, et alors nous prîmes la route à cheval pour Setford, à environ 20 milles de Norwich. Le temps était froid, une averse de grêle nous surprit, et je fus de nouveau pris d'une crise de fièvre intermittente sur la route, avant d'arriver à Setford. Pourtant, avec l'aide du Seigneur, je tins bon et allai mieux au moment où nous arrivâmes à Setford, et cet après-midi-là je pus sans peine monter jusqu'au sommet du mont ou de la colline réputée qui se trouve près de la ville. Nous rencontrâmes le reste de nos amis, venus du château de Norwich à la prison de Setford, où nous étions pendant la journée, après le début des assises, mais la nuit nous avions la liberté de loger chez nos amis dans la ville ou aux environs. Le juge Hall et le juge Wyndham, c'est-à-dire Wadham Wyndham, étaient les deux magistrats qui siégèrent aux mêmes assises, et le juge Wyndham siégeait du côté de la couronne. Dans son réquisitoire, il menaça terriblement les dicides, et ceux qui n'allaient pas à l'église paroissiale et ne se conformaient pas, ou qui tenaient des conventicules ou réunions illégales, informant le pays de plusieurs anciennes lois pénales sévères faites contre de tels gens, et faisant en lire certaines au tribunal. Une ancienne amie, Elizabeth Howe, habitant alors à Snare Hill près de Setford, me donna, en larmes, un récit complet après avoir entendu le dit réquisitoire, étant très affligée de voir combien ils étaient résolus à persécuter. Pour l'encourager, je lui signifiai que le Seigneur plaiderait notre cause et se tiendrait auprès de nous, et que je ne voulais pas que les amis se découragent, mais qu'ils soient fidèles au Seigneur et vaillants pour la vérité sur la terre, comme j'avais souvent exhorté les amis. Les amis furent plusieurs fois appelés au tribunal avant la fin des assises, je fus appelé 4 fois, et on me demanda en particulier pourquoi j'étais venu dans ce comté depuis le mien, à quoi je donnai au juge un compte rendu sobre et consciencieux, que le Seigneur m'avait appelé à prêcher la repentance et à rendre témoignage à la vérité, contre l'hypocrisie, le péché et la méchanceté. Étant requis de prêter le serment d'allégeance, je dis au juge que Christ nous avait commandé de ne pas jurer du tout, comme l'avait aussi fait l'apôtre Jacques, qui connaissait bien la pensée de Christ et exhortait, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez point ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous la condamnation. » J'en conclus que si nous ne pouvons jurer par aucun autre serment, alors nous ne pouvons pas davantage jurer par le serment d'allégeance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jurer du tout, ni prêter aucun serment, qu'il s'agisse de celui d'allégeance ou d'un autre, les juges ne contestèrent pas ce point ni l'argument. Mais voyant que moi, et le reste de nos amis alors prisonniers étions tous d'un même avis en cette affaire, et que nous refusions tous de jurer, préférant souffrir pour la conscience, nous fûmes renvoyés à la prison de Setford. Avant la fin des assises, certains d'entre nous furent de nouveau appelés au tribunal, et un acte d'accusation fut lu contre moi et quelques autres, rempli de fausses et amères accusations et invectives, parce que nous refusions de prêter le serment d'allégeance, cela étant le piège généralement tendu contre nous, pour lequel on nous reprochait l'obstination et le mépris envers le roi, sa couronne et sa dignité, et autres chefs d'accusation injurieux de ce genre. Étant requis de plaider coupable ou non coupable, je commençai à distinguer les éléments de l'acte d'accusation, qu'une partie en était vraie, à savoir que nous refusions de prêter le serment, mais que ce n'était pas par obstination ni par mépris envers le roi ou le gouvernement, mais par conscience, en obéissance au commandement du Christ. Le juge Wyndham, nous pressant de plaider coupable ou non coupable, afin de m'empêcher d'exposer notre cause, je refusai de plaider en ces termes, à moins qu'il ne me permît de répondre spécialement et distinctement aux diverses parties de l'accusation, afin d'en montrer les incohérences et de manifester notre clarté et innocence, nous qui étions les souffrants. Le juge s'en offensa alors, parce que je n'étais pas disposé à me borner à plaider seulement coupable ou non coupable, et il voulut qu'on m'emmenât et qu'on me renvoyât en prison, alors je lui répondis que lorsque Paul était prisonnier, il fut autorisé à plaider et à parler devant le roi Agrippa, acte 26, et devant des magistrats et gouvernants turcs ou païens. Je dis donc qu'il était dur que nous ne puissions pas être autorisés à parler ou à plaider pour nous-mêmes devant vous, qui vous dites magistrats chrétiens. Le juge parut irrité et troublé, je fus promptement retiré du tribunal. Emmenez-le, geôlier, était un argument moqueur de ces jours-là, auquel on ne pouvait rien opposer, cependant le juge Hall se comporta envers nous avec plus de douceur et de modération. On observa que lorsque plusieurs d'entre nous, prisonniers, étaient appelés ensemble au tribunal, certains juges de paix du pays, siégeant au banc, en particulier l'un d'eux, nous accusaient auprès du juge Wyndham afin de l'exciter contre nous, et surtout contre John Hubbard père de Stokefell dans le Norfolk, et d'autres, pour avoir reçu et hébergé les Quakers et leurs prédicateurs dans leur maison. Notre ami cher et honnête John Hubbard, voyant l'envie de ses persécuteurs, qui voulaient faire de lui un coupable pour avoir reçu des étrangers, comme l'apôtre l'enseignait, fut animé d'un zèle qui le poussa à répondre à son accusateur et à plaider une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, car on le connaissait pour un homme honnête craignant Dieu. Témoignant avec zèle et courage, il mit alors un frein aux accusations du juge contre des prisonniers innocents. Mais il n'était pas rare en ces jours-là que des juges de paix malveillants et persécuteurs soient à la fois accusateurs et juges sur le banc contre nos amis, et tels des dénonciateurs envieux, s'efforcent d'irriter les juges contre nous par des insinuations et accusations injustes, dans l'intention d'obtenir contre nous de dures sentences, et souvent de préjuger notre cause avant même qu'elle ne soit entendue ou jugée juridiquement. Bien que, durant les assises de Thetford, l'esprit de persécution fût ardemment à l'œuvre chez nos adversaires, je ressentais chaque jour la puissance du Seigneur au-dessus de tout, par laquelle moi et mes compagnons de captivité fûmes soutenus, fortifiés et préservés dans l'innocence et une grande paix, à la louange de notre Dieu très gracieux. Quoique je ne puisse attendre autre chose sinon que nos persécuteurs seraient autorisés à renforcer et à prolonger nos liens, du moins contre certains d'entre nous, qu'ils avaient dessein de prendre pour effrayant exemple, je ne fus nullement découragé ni abattu en esprit sous cette persécution, mais je retournai gaiement en prison au château de Norwich, et j'allais mieux en tout, quant à ma santé et à mes forces, que lorsque j'en étais sorti pour aller aux assises de Thetford. Ce fut pour moi un signe très remarquable et mémorable de la miséricordieuse providence et de l'amour de Dieu que, bien que j'aie été très faible et malade en prison au château quelques jours seulement auparavant, et que je sois allé aux assises de Thetford à cheval en mauvais état pourtant, tandis que j'assistais aux assises, je recouvrais rapidement la santé, de sorte que mes accès de fièvre intermittente et ma fièvre furent entièrement dissipés, et je n'eus pas une seule crise durant tout le temps de cet emprisonnement, mais je fus rétabli en parfaite santé. Si d'entre nous, à qui l'on présenta le serment et qui furent inculpés, furent, avec quelques autres, renvoyés au château, et les autres furent relâchés, étant pour la plupart des travailleurs, des fermiers et des artisans. Nos persécuteurs avaient choisi pour être renvoyés en prison ceux qu'ils croyaient les plus en vue parmi les Quakers, tels que John Lawrence, Joseph Lawrence, William Barbet, Henry Kettle père et fils, John Hubbard et plusieurs autres, en raison de leur amour et de leur bonté envers leurs amis, et du fait qu'ils tenaient des réunions dans leur maison. Le temps durant lequel nous fûmes détenus prisonniers au château de Norwich, dans les années 1660 et 1661, fut d'environ 16 semaines, du 11e au 3e mois. Notre libération fut obtenue par la proclamation de grâce du roi, comme on l'appelait, dans laquelle, nonobstant sa grâce ou faveur exprimée envers les Quakers, il n'y était pas sans menace, c'est-à-dire sans intention de leur assurer l'impunité, s'ils venaient à l'avenir à commettre de nouveau une faute de même nature. Or, il s'agissait principalement de tenir leurs réunions religieuses, destinées uniquement au culte du Dieu vivant, selon leur conscience et leurs convictions. Et pour cette raison, notre impunité ou absence de châtiment n'était pas voulue, comme il apparut plus pleinement par la suite, en peu de temps. Une autre chose encore, dont je ne puis omettre de donner quelques récits. Lorsque nous étions réunis dans la prison de Thetford pour comparaître aux assises, je rencontrai Henry Kettle l'aîné, prisonnier là, qui était un homme ancien, et avait été maire de la ville et juge de paix, avant d'être en communion avec nous. Après avoir reçu nos amis et tenu des réunions chez lui, ayant de l'amour pour la vérité et pour nous, il fut emprisonné. Un jour, alors que lui et moi marchions ensemble dans la cour de la prison, il m'ouvrit son état et l'épreuve qu'il traversait, comment des proches le pressaient durement de prêter le serment d'allégeance, parce qu'il craignait que lui et sa famille ne fussent ruinés. Pour cette raison, l'épreuve serait très dure à supporter pour lui, eu égard à sa propre faiblesse. Toutefois, il me dit avec tendresse qu'il avait considéré ces paroles du Christ, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu », concluant qu'il ne devait donc pas regarder en arrière, il ne devait pas reculer ni se détourner de la vérité. J'eus grande joie de l'entendre donner de lui-même un si honnête compte-rendu, tant de son épreuve que de sa bonne résolution, ayant bien compris sa faiblesse combien son esprit avait hésité et chancelé, et combien il lui était difficile, étant une personne de grand renom, de se soumettre à la croix du Christ, jusqu'à endurer l'opprobre et la persécution pour Christ Jésus et sa vérité. Mais maintenant qu'il s'était résolu à souffrir pour Christ, il était secouru et fortifié par Christ, choisissant de souffrir avec le reste d'entre nous plutôt que de perdre sa paix intérieure en se détournant du témoignage de la vérité, de sorte que parce qu'il ne pouvait se soumettre à la volonté de ses persécuteurs, il fut, contrairement à la loi, transféré de Thetford, la corporation où se trouvait sa résidence, à la prison du comté au château de Norwich, où son fils Henry était détenu prisonnier avec le reste d'entre nous. À la session trimestrielle suivante tenue au château de Norwich, pour le comté de Norfolk, Henry Kettle l'aîné fut appelé devant la cour de session, où, pour le prendre au piège, on lui demanda de prêter le serment d'allégeance, s'efforçant de le lui imposer. Mais il résista à leurs menaces et ne se laissa pas imposer, disant au juge qu'il avait été déplacé, contrairement à la loi, hors de sa propre juridiction, à laquelle il appartenait, et que, par conséquent, il était indûment amené devant eux dans ce tribunal. C'était une atteinte à son privilège et à celui de la juridiction que de le déplacer là, devant cette session trimestrielle, pour y être poursuivi ou jugé, et expressément contraire à la Magna Charta, par laquelle les libertés et privilèges des corporations doivent être confirmés et maintenus, et non violés. Moi et un autre compagnon de captivité, étant alors sur la colline du château, l'entendîmes plaider de cette manière et les presser sur ce point, mais au lieu de lui répondre selon le droit ou de justifier leur procédure par la loi, ils continuaient à lui opposer et à lui imposer leur demande, disant « Cela n'a pas d'importance, cela n'a pas d'importance comment vous êtes venu ici. Ce n'est pas à nous de nous enquérir comment vous êtes ici, nous avons le pouvoir de vous présenter le serment. » Monsieur Kettle, prêterez-vous le serment d'allégeance, oui ou non ? Il répondit, qu'on me renvoie dans ma propre corporation, la ville de Setford, et là je pourrais répondre. Mais autrement il ne se considérait pas tenu de répondre devant la cour de session tenue pour le comté de Norfolk, ayant été indûment déplacé là hors de la sienne. Telle est, en substance, leur procédure contre Henry Kettle l'aîné en ce temps-là, du mieux que je m'en souvienne, et je prêtai une attention sérieuse aux discours entre lui et les juges qui, ne pouvant par persuasion ni menace le contraindre à prêter serment, le renvoyèrent à la geôle du château, pour demeurer prisonnier avec le reste d'entre nous. Je fus heureux et consolé qu'il eût soutenu cette épreuve aussi bien qu'il le fit, et que le Seigneur l'eût soutenu de sorte qu'il ne tombât pas dans le piège qui lui était tendu, mais qu'il évitât de jurer et déjoua leurs efforts pour lui imposer un serment contre sa conscience. Je compris que cela lui donna plus de force dans la vérité, et que ses poursuivants ne furent pas autorisés à le faire tomber sous la peine d'un promunir, pas plus que le reste d'entre nous, qui fûmes poursuivis en vue de cela, mais tous déchargés par la proclamation du roi mentionnée plus haut. Je sentis que le Seigneur eut égard à Henry Kettle l'aîné et à sa famille, car ils conservèrent leur amour pour la vérité et pour les amis, en particulier son fils Henry, et sa fille Anne, jeune fille sobre et vertueuse, bien qu'elle ne vécût pas de nombreuses années après avoir reçu la vérité, mais son frère Henry vécut jusqu'à un âge avancé. Et leur mère, une femme ancienne, avait tant d'amour pour les amis qu'elle ne se contentait pas de les héberger avec bonté, mais lorsque son fils Henry fut prisonnier avec nous au château de Norwich, elle vint à pied depuis Setford pour le visiter, lui et nous en prison, manifestant ainsi son amour et sa bonté envers nous, et autant que j'ai pu le comprendre, elle supporta patiemment sa souffrance ainsi que celle de son mari par la suite, au-delà de ce qu'on pouvait attendre, vu son état de faiblesse. Une raison de sa venue à pied pour nous visiter en prison, je suppose, fut son âge et sa faiblesse, qui ne lui permettaient pas d'endurer un si long trajet à cheval. Le Seigneur fit miséricorde à cette famille, comme il le fit à beaucoup d'autres en ces jours-là, qui depuis sont allés se reposer de leurs travaux et de leurs souffrances. Durant notre emprisonnement, nous avertîmes fidèlement nos persécuteurs contre leur dure procédure, en les informant de l'innocence et de la justice de notre cause, de sorte qu'ils demeurèrent sans excuse. Nous veillâmes aussi à ce que le roi en fût informé, et les souffrances générales de nos amis lui furent exposées, et l'on plaida leur innocence, comme peuple paisible n'ayant pas perdu son droit au bénéfice de la promesse antérieure du roi, d'accorder la liberté aux consciences délicates en matière de religion. Certains de nos amis à Londres lui rappelèrent cette promesse antérieure, et, par des sollicitations et des plaintes fréquentes au sujet de nos persécutions et de nos duretés, il fut amené à publier la proclamation de grâce pour notre libération des prisons. Mais elle contenait aussi une menace, qu'il n'était pas entendu que nous bénéficierions d'une immunité si nous répétions notre pratique, comme nous l'avions faite au titre du devoir de religion. Ainsi arriva-t-il que ce ne fut que pour peu de temps après avoir recouvré la liberté que nous pûmes jouir paisiblement de nos réunions religieuses. Car l'esprit irréligieux de persécution était encore à l'œuvre dans la nation parmi les prêtres et les magistrats, qui voulaient contraindre tous les hommes à aller à l'église et à se conformer. Le prétexte était que tous fussent d'une seule religion, alors qu'il y avait peu de vie, de substance ou de pureté de religion dans leur dessein, mais plutôt une forme vide, des cérémonies et une apparence extérieure et un prétexte, pour pallier la cupidité, l'orgueil, le relâchement des mœurs, de multiples corruptions et une liberté charnelle, alors abondant et de plus en plus évident. Les libertins de ces jours-là nous disaient en se vantant, « Vous devez tous aller à l'église, sinon vous perdrez vos biens, vous serez pendus ou bannis, avec bien d'autres menaces et cruelles moqueries. » Pourtant cela ne servit qu'à fortifier notre résolution, sur le fondement sûr de la foi et de l'espérance, car nous connaissions celui en qui nous avions une foi vivante et une espérance de salut et de force. Loi du Parlement, pour supprimer les réunions de culte Quakers, l'esprit de persécution, était si précipité et si avide d'agir sous le même couvert de la loi que, dans le premier Parlement choisi après la restauration du roi, ils conçurent un projet de loi pour supprimer nos réunions. Comme beaucoup des personnes choisies pour être membres de ce Parlement étaient connues pour être des persécuteurs, Ils l'emportèrent et le firent adopter au vote, de sorte que le projet fut renvoyé en commission et passa en loi, intitulé « Loi visant à prévenir les méfaits et dangers qui peuvent résulter de certaines personnes appelées Quakers » et d'autres, refusant de prêter des serments légaux. Attendu que ces derniers temps, certaines personnes sous le nom de Quakers et d'autres noms de séparation ont adopté et soutenu de nombreuses opinions et doctrines dangereuses, et entre autres que le fait de prêter serment, en quelque cas que ce soit, même devant un magistrat légitime, est absolument illégal et contraire à la parole de Dieu, et que lesdites personnes refusent chaque jour de prêter serment, bien qu'il leur soit dû me proposer, par quoi il arrive souvent que la vérité est entièrement étouffée, et l'administration de la justice. Et attendu que lesdites personnes, sous prétexte de culte religieux, s'assemblent souvent en grand nombre, en divers endroits de ce royaume, au grand péril de la paix et de la sûreté publique, et à la terreur du peuple, en maintenant entre elles une correspondance secrète et étroite, et se faisant en se séparant et en se divisant du reste des bons et loyaux sujets de Sa Majesté, ainsi que des congrégations publiques et des lieux ordinaires de culte divin. Il fut donc statué. Si 5 Quakers ou davantage, âgés de 16 ans plus, s'assemblent sous prétexte de se joindre à un culte religieux non autorisé par la loi, la partie fautive, reconnue coupable par verdict, aveu ou par l'évidence notoire du fait, sera passible pour la première infraction de l'amende imposée n'excédant pas 5 livres, et pour la seconde de l'amende imposée n'excédant pas 10 livres à recouvrer par saisie et vente des biens, et à défaut de quoi ou en cas de non-paiement dans la semaine suivant la condamnation, else. Et si, après 2 condamnations, ils commettent une 3e infraction et sont condamnés, ils abjureront le royaume, où le roi pourra ordonner leur transport sur tout navire, vers l'une quelconque de ses plantations. Cette loi fut dirigée contre le peuple appelé Quakers, alors qu'on ne pouvait justement rien leur reprocher, ni prouver aucun fait, sinon ce qui concernait la religion et le culte rendu à Dieu Tout-Puissant, conformément à leurs convictions de conscience. C'est pourquoi ce fut uniquement pour le servir et l'adorer selon nos consciences que, pendant un temps, nous souffrîmes grandement par cette loi. George Whitehead, âgé de 24 ans, plaide auprès du Parlement. Edward Burroughs, Richard Robinson et moi-même, ayant y avis compris la teneur de l'affaire, lorsqu'elle fut rédigée sous forme de projet de loi, assistâmes au Parlement et plaidâmes contre celle-ci afin qu'elle ne fût pas adoptée comme loi. Nous entretînmes de nombreux membres, leur montrant combien il serait déraisonnable et préjudiciable de faire passer une telle loi contre nous, peuple innocent, nos assemblées religieuses étant paisibles et n'ayant d'autre objet que l'adoration de Dieu Tout-Puissant selon nos consciences, et ne tendant en aucune. Lorsque le dit projet de loi fut renvoyé en commission, nous assistâmes plusieurs fois au comité, les 10 et 13 du 5e mois 1661, et chacun de nous fut autorisé à comparaître et à faire entendre ses raisons devant celui-ci, au sujet du projet de loi, pour expliquer pourquoi il ne devait pas être adopté contre nous. Ce que je déclarai au comité, j'en ai gardé le récit, à savoir que, la première fois je fis valoir que nos réunions sont dans et pour le culte de Dieu, ce qui est réellement une affaire de conscience et d'un grand poids pour nous, et que par délicatesse de conscience envers le commandement du Christ, nous les pratiquons sans autre fin que purement le culte et le service de Dieu, selon l'exemple et la pratique des saints et des chrétiens primitifs, et que nous nous comportons paisiblement envers tous les hommes, par conséquent nous devrions y avoir la liberté de nos consciences, conformément aux promesses du roi de liberté pour les consciences scrupules. Et que si nous souffrons pour nos réunions paisibles et inoffensives, qui ne sont que pour le culte de Dieu, selon la pratique des saints, qui se réunissaient souvent ensemble à cette fin, nous souffrons pour la cause de Dieu, et nous remettrons notre cause entre ses mains, sachant qu'il la défendra et la vengera contre nos persécuteurs, ou à peu près en ces termes, les exhortant à agir dans la crainte de Dieu, etc. Avec d'autres paroles importantes, elles auront droit. La seconde fois que nous comparûmes devant le comité, je leur dis, au sujet de nos réunions contre lesquelles leur loi envisagée était principalement dirigée, que nous nous réunissions au nom et dans la crainte du Seigneur Dieu, et en obéissance à lui, comme le faisaient les saints d'autrefois, de sorte qu'ils pourraient aussi bien entreprendre de faire une loi nous interdisant de prier au nom de Jésus-Christ, que d'en faire une pour empêcher ou supprimer nos réunions, qui sont en son nom, et auxquelles nous ne pouvons pas plus renoncer que Daniel ne pouvait s'abstenir. Un certain ce John Goodrich, étant l'un des membres du comité, se leva et s'acharna très activement contre nous, accusant nos réunions, les qualifiant d'illégales et contraires à la loi, tendant à détourner les gens de l'Église, à séduire ceux qui sont orthodoxes, et autres propos semblables. À quoi je répondis, si nos réunions sont contraires à la loi, cela implique qu'il existe quelque loi à laquelle elles sont contraires. Si tel est le cas, il semble superflu et inutile de vouloir en faire une autre, s'il en existe déjà une en vigueur contre elles. Mais nous espérons qu'on ne pourra rien prouver de tel contre nous, à savoir que nos réunions seraient illégales en elles-mêmes, puisqu'elles se tiennent en obéissance au Seigneur notre Dieu, uniquement pour son culte, et conformément à la pratique des chrétiens primitifs, telle qu'elle est rapportée dans les Écritures de vérité. De telles réunions ne sont pas illégales, et les nôtres le sont de même, comme nous pouvons le prouver, et donc elles ne sont pas illégales. Si la loi que vous envisagez venait à être mise à exécution contre nous, à cause de nos réunions paisibles, elle pourrait produire de tristes souffrances pour des milliers de personnes innocentes dans la nation, mettre en danger la ruine de nombreuses familles, et la perte de certaines vies et ainsi fut-il, par la persécution et les emprisonnements. Quelle mauvaise réputation cela fera-t-il qu'un peuple innocent soit ainsi opprimé pour sa conscience, alors qu'aucun fait, ni crime, digne d'un tel châtiment, ne peut être prouvé contre eux ou à cet effet. Et de plus, si cette loi envisagée est appliquée contre nous, elle enhardira et fortifiera des personnes mauvaises, malveillantes et sans loi, qui saisiront l'occasion de nous persécuter au-delà de la loi, d'en dépasser la sévérité, comme ils l'ont fait récemment, par exemple, lorsque beaucoup d'entre nous furent emprisonnés sur la proclamation du roi pour nous être réunis, certains de nos amis furent tirés de leur lit par des rustres et jetés en prison, certains pauvres hommes furent arrachés à leur travail, séparés de leur pauvre famille qu'ils devaient. Or, vous faites une loi pour nous faire souffrir à cause de nos réunions paisibles, combien plus des personnes grossières, et sans loi seront-elles encouragées par là à exercer leur cruauté et leur persécution contre nous, tant au-delà que contre ce qu'exige la loi, et votre loi envisagée ne satisfera-t-elle pas ces esprits malveillants? C'est pourquoi considérez et pesez sérieusement notre cause, je laisse ces choses à votre sérieuse considération. N'ayant pas de compte rendu particulier ou complet par écrit de ce que mes amis Edward Burroughs et Richard Robeson déclarèrent au comité, je ne puis l'insérer avec le mien, autrement je l'aurais fait. Mais je me souviens que la dernière fois que nous fûmes devant le comité, Edward Burroughs dit à ceci que, s'il faisait une loi contre nos réunions religieuses, il considérerait de son devoir d'exhorter nos amis à tenir leurs réunions avec diligence. Malgré nos supplications et nos raisonnements au comité contre le projet de loi, avec encore davantage de choses dites, ils allèrent de l'avant, résolus à le faire, afin de présenter leur rapport à l'Assemblée entière. Sachant quand le projet de loi devait être lu à la Chambre, nous cherchâmes à y assister et demandâmes la permission d'y parler, avant qu'il ne fût adopté comme loi. Jour fixé, le 19 juillet 1661, Edward Burroughs, Richard Robeson et moi-même, avec Edward Piot de Bristol, qui avait été capitaine, montâmes à la Chambre du Parlement et parlâmes à certains membres, que nous savions nous être favorables, pour qu'ils demandent notre admission afin d'être entendus à la Chambre avant que le projet de loi ne fût adopté. À cette fin, nous leur remîmes par écrit une proposition ainsi formulée, que nous désirions avoir la liberté accordée aux criminels, à savoir que. Sur quoi une motion fut présentée à la Chambre, et la permission fut donnée que nous fussions appelés et entendus. En conséquence, nous fûmes bientôt appelés à comparaître devant la barre de la Chambre des communes. La Chambre était pleine, et chacun se tenait tranquille, prêt à entendre ce que nous avions à offrir. Lorsque Edward Burroughs commença à plaider pour l'édification des réunions des Quakers et contre le projet de loi qui leur était soumis, certains membres lui dirent « Vous devez adresser votre discours à Monsieur le Président ». Il leur répondit qu'il le ferait. Le point sur lequel il insista principalement fut que nos réunions n'étaient en aucune manière une terreur pour le peuple, comme le laissait entendre le préambule du projet de loi, mais qu'elles étaient paisibles et innocentes, uniquement pour le culte et le service Dieu Tout-Puissant, et telles que l'exige la loi de Dieu, gravée dans les cœurs et les consciences, contre laquelle il ne devrait faire aucune loi. Aucune loi humaine ne devrait être faite contrairement à la loi de Dieu, nous interdisant de l'adorer, et s'il faisait une telle loi, elle ne nous lierait pas pour désobéir à la loi de Dieu. Pour étayer cette position, il mentionna et leur cita cet ancien livre de droit, Doctor and Student, qu'il tenait en main, ou traitant de la loi de Dieu, de la loi de raison, etc. Écrit dans le cœur de l'homme, il est dit, « Parce qu'elle est écrite dans le cœur, on ne peut l'abolir, et elle n'est jamais susceptible de changement selon le lieu ou le temps, et par conséquent contre cette loi prescription, statuts ou coutumes ne peuvent prévaloir, et si l'on en introduit contre elle, ce ne sont pas des prescriptions, des statuts ou des coutumes, mais des choses nulles et contraires à la justice. » Alors Edward Burroughs leur dit que, s'ils faisaient une telle loi contre nos réunions, qui sont instituées pour le culte de Dieu, elle serait contraire à la loi de Dieu, et nulle, ou devrait être nulle, ipso facto. Je me souviens que tel était l'essentiel de ce qu'Edward Burroughs plaida à la Chambre à ce moment-là. Richard Robeson argumenta sur ce point, à savoir, comme il est suggéré que nous sommes nombreux, et que nous entretenons entre nous une correspondance étroite et secrète, nos réunions pourraient être d'autant plus dangereuses pour tramer et provoquer des insurrections, etc., comme l'implique le préambule du projet de loi. À quoi Richard Robeson donna une réponse honnête et franche, qu'il ne pouvait y avoir un tel danger dans nos réunions, comme de tramer des insurrections ou des complots contre le gouvernement, car nos réunions étaient publiques, où toutes sortes de personnes pouvaient assister, venir entendre et voir ce qui se disait ou se faisait. Il n'était donc pas vraisemblable ni probable que nous y fomentions ou tramions des insurrections sous les yeux du monde entier. Et si nos réunions devaient être réduites à un nombre si petit que 4 ou 5 personnes seulement, outre les membres de la famille, cela ne romprait pas notre correspondance, mais nous aurions davantage d'occasions de correspondre en privé et de tramer et comploter une insurrection ou quelques méfaits si nous étions un peuple de tels mauvais principes ou si mal intentionnés, ce que nous ne sommes pas. Il est donc tout à fait raisonnable de permettre que nos réunions soient publiques, comme elles le sont, et de ne pas nous punir sur la base d'un soupçon de danger sans cause, lorsqu'aucune raison n'en apparaît, ni de faire une loi pour les limiter à un petit nombre, ou en ce sens. Après qu'Edward Burroughs et Richard Robeson eurent parlé contre le projet de loi, principalement conçu contre nos réunions religieuses, je commençais ainsi, « J'ai quelques mots à vous dire, en rapport avec ce qui a été dit, et je souhaite être entendu car je ferai aussi bref que possible. Monsieur le Président, alors présentez-les, et ne vous répétez pas. » George Whitehead, nous vous prions, dans la crainte du Seigneur, de nous considérer, puisque nous sommes un peuple innocent et souffrant, et que nous l'avons été sous les divers gouvernements depuis que nous sommes un peuple, comme notre patience et notre innocence envers nos persécuteurs, dans toutes nos souffrances, l'ont clairement manifesté. Car tant sous Oliver Cromwell que depuis son temps, nous avons enduré de dures souffrances, des persécutions et des emprisonnements pour notre conscience, et pourtant nous ne nous sommes pas rebellés ni n'avons cherché à nous venger de nos persécuteurs, mais, dans toutes nos souffrances imméritées, nous avons remis notre cause au Seigneur. Et dès lors, quelle chose déraisonnable est-ce qu'une loi soit particulièrement faite contre nous, alors que nous n'avons fait aucun mal, ni porté atteinte à la personne de quiconque, et qu'on ne pourrait rien prouver de tel contre nous, quant à nos réunions, pour quoi que ce soit dont nous ayons jamais été déclarés coupables. Ainsi faire une loi contre nous, tendant à notre ruine, et entreprendre de nous piétiner, alors que nous sommes innocents et paisibles dans la nation, et qu'aucun fait digne de souffrance n'est prouvé contre nous, ne sera ni à l'honneur du roi, ni n'ajoutera quoi que ce soit à votre sécurité. Non, quelle dure chose est-ce pour vous de faire une loi qui ajoute affliction et triste souffrance sur nous, alors qu'il existe déjà plusieurs lois en vertu desquelles nous sommes exposés à souffrir, telles que celles concernant les dîmes, les serments et autres, de sorte que faire encore une loi pour nous affliger, alors que rien de digne de souffrance n'est prouvé, nous semble très dur et déraisonnable. En outre, nous n'avons ni perdu nos libertés, ni abusé en quoi que ce soit de l'indulgence du roi, par aucun de nos actes. Puisque le roi a promis la liberté aux consciences scrupuleuses, à condition qu'elles ne troublent pas la paix du royaume, et puisque nous n'avons pas perdu notre droit à cela, nous ne devrions donc pas être empêchés d'user de notre liberté en matière de culte et de conscience envers Dieu. Nous pouvons prouver que notre pratique de nous assembler, et nos principes aussi, sont fondés sur la juste loi de Dieu et conformes à la doctrine du Christ, et nous sommes disposés à les défendre et à les démontrer selon la vérité, si nous pouvions ici en avoir la liberté, et ce pour la satisfaction de ceux qui s'y opposent ou en doutent. Dans la crainte du Seigneur, considérez ce que vous faites, et ne cherchez pas à ajouter davantage d'affliction sur nous, de peur d'opprimer l'innocent. Cependant, si nous souffrons pour notre conscience en obéissant au Christ, nous remettrons notre cause au Seigneur notre Dieu, qui, sans aucun doute, plaidera contre nos oppresseurs. Après qu'Edward Burroughs, Richard Robeson et George Whitehead eurent déclaré à la Chambre des communes ce qui a été rapporté, Edward Piot fut également autorisé à leur dire quelques mots, ce qu'il fit avec beaucoup de gravité sur ce sujet, leur rappelant cette règle d'or que Jésus-Christ a établie et qu'il exige que nous observions tous, faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, les avertissant ainsi que de même qu'ils ne voudraient pas être persécutés, opprimés ou contraints de souffrir pour leur religion ou leur conscience, ou qu'une loi fût. Edward Piot insista fortement sur ces exhortations. « Comme nous nous retirions de la chambre, quelques membres près de la porte me tirèrent doucement par la manche, je me retournai et leur demandai ce qu'ils me voulaient. Ils dirent, « Rien, sinon vous regardez. » Je n'étais qu'un jeune homme d'environ 24 ans. Nous parûmes et déclarâmes ce que nous avions à l'esprit, avec une grande simplicité et sincérité, et la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous et nous aidèrent dans nos efforts. Et je vis clairement que ce que nous leur déclarâmes innocemment eut quelque effet et atteignit la conscience de plusieurs membres, qui se montrèrent sérieux et posés dans leur attitude envers nous. J'eus ensuite l'indication que certains membres confessèrent que ce que nous avions déclaré était très raisonnable, et que, s'ils avaient craint Dieu ou pris en considération son conseil, et s'ils l'avaient laissé régner parmi eux, ils n'auraient pas fait cette loi contre nous. Mais nous n'avions, dans ce Parlement, qu'un très petit nombre de personnes qui paraissaient ouvertement être nos amis, ou des amis de la liberté pour les consciences scrupuleuses, en ces jours-là, à savoir Edmund Wall, Seigneur Esk, qu'on surnommait Whitwall, il était opposé à la persécution et favorable à la liberté de conscience, et toujours bon envers nous, et Michael Mallet, Esk, qui fut ensuite convaincu de la vérité et fréquenta nos réunions, même en temps de souffrance, lorsque nos réunions furent contraintes de se tenir dehors, dans les rues de Westminster et de Londres, et ce John Vaughan, alors jeune homme, parut aussi être pour nous, et fut ensuite convaincu de la vérité. Il alla à nos réunions lorsque nous fûmes persécutés en vertu du Conventicle Act et fut emprisonné à Newgate avec nos amis pendant quelque temps, ayant été pris lors d'une réunion à Mill End. Par la suite, il demeura parmi nos amis et nous visita en prison, et bien qu'à la fin certains de ses proches l'aient détourné, à son grand préjudice, il conserva néanmoins une bienveillance, même lorsqu'il devint comte de Carbury, et resta amical envers nous quand il était un vieil homme, et jusqu'à sa fin, n'oubliant pas entièrement la conviction et la connaissance de la vérité qu'il reçut lorsqu'il était parmi nous. Il y avait aussi quelques autres membres de ce Parlement qui nous étaient favorables à l'époque où nous comparûmes devant eux, mais, comme la majorité était résolue et portée à la persécution, ils firent passer le projet de loi en loi. Il s'ensuivit une grande persécution et des emprisonnements. Reprise des persécutions en l'année 1662, nos réunions à Londres et aux environs furent dispersées avec force et violence par les trimbans milices et les officiers, surtout les premiers jours de la semaine, jours qui, bien qu'ils le prétendissent être leur sabbat chrétien, ne fut observé avec aucune sainteté, mais marqué par le fait d'arracher et de tirer des personnes innocentes hors de leurs assemblées religieuses et de les traîner en prison. C'est ordinairement ce jour-là qu'ils accomplissaient ces œuvres furieuses de persécution, qu'ils prétendaient être leur sabbat chrétien et le jour du Seigneur, devant être sanctifié, comme Israël était tenu d'observer et de garder le septième jour pour le sabbat, selon le quatrième commandement. Tiré de l'histoire d'un peuple appelé Quakers, 1695 de William Soule au moment de la publication de Soule, les persécutions ci-dessous n'avaient eu lieu que 30 ans auparavant. William Soule put donc parler à de véritables victimes, à des témoins oculaires, et examiner des pièces judiciaires encore récentes. Tas de la persécution à Londres, où une fureur désespérée faisait maintenant rage. Toutefois, ce n'était pas seulement dans cette ville principale que les Quakers étaient le plus cruellement persécutés, car un peu avant ce temps, il fut publié imprimé un bref récit de la persécution dans toute l'Angleterre, signé par 12 personnes, montrant que plus de 4200 de ceux appelés Quakers, hommes et femmes, étaient en prison en Angleterre, et indiquant le nombre de ceux qui étaient emprisonnés dans chaque comté, soit pour avoir fréquenté. Beaucoup d'entre eux avaient été cruellement battus, ou leurs vêtements déchirés ou enlevés, et certains furent jetés dans des cachots si infects que, disait-on, certains grands personnages n'y auraient pas mis leurs chiens de chasse. Certaines prisons étaient bondées d'hommes et de femmes, au point qu'il n'y avait pas assez de place pour que tous puissent s'asseoir en même temps, et dans le Cheshire, 68 personnes furent ainsi enfermées dans une petite pièce, signe évident qu'ils étaient un peuple inoffensif, qui n'opposerait aucune résistance ni n'userait de force. Par de tels mauvais traitements, beaucoup tombèrent malades, et un grand nombre moururent dans ces geôles, car nul âge ni sexe n'était épargné, même des personnes âgées de 60, 70 ans et plus ne furent pas ménagées, et la plupart étant des artisans, des boutiquiers et des laboureurs furent ainsi réduits à la pauvreté, car leurs biens aussi furent saisis pour ne pas aller à l'église ainsi appelée, ou pour ne pas payer les dîmes. Souvent ils furent forcés de coucher en prison sur un sol froid et sale, sans qu'on leur permît d'avoir de la paille, et souvent ils furent gardés plusieurs jours sans nourriture. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup soient morts de tels rudes emprisonnements. À Londres et dans les faubourgs, il y avait à cette époque pas moins de 500 Quakers emprisonnés, certains dans des trous si étroits que chaque personne avait à peine la place de s'étendre, et les criminels de droit commun étaient autorisés à les dépouiller de leurs vêtements et de leur argent. Beaucoup qui n'étaient pas emprisonnés souffrirent néanmoins des violences dans leurs réunions religieuses, surtout dans le lieu de réunion de Londres, connu sous le nom de Bull and Mouth. Là, les milices entraînées venaient fréquemment, armées le plus souvent de mousquets, de piques et de halbardes, et conduites par un officier militaire par ordre de la magistrature de la ville, et se précipitant à l'intérieur avec une fureur extrême, se mirent à les battre, si bien que beaucoup furent grièvement blessés, certains tombèrent en syncope, et certains furent battus si violemment qu'ils ne vécurent pas longtemps après. Parmi eux se trouvait un certain John Trowell, qui fut si meurtri et écrasé qu'il mourut quelques jours après. Ses amis jugèrent donc opportun de porter le corps au lieu de réunion susmentionné, afin qu'il y fût exposé pendant quelques heures, à la vue de tous. Ce qui, étant fait, suscita compassion et pitié chez beaucoup d'habitants, car le cadavre, battu comme une gelée, paraissait noir et était enflé d'une manière effroyable. On manda le coroner, il constitua un jury de voisins et leur donna charge, conformément à son office, de faire une enquête exacte sous serment et de présenter ce qu'ils trouveraient être la cause de sa mort. Ayant examiné le corps, ils eurent avec eux un chirurgien ou deux pour connaître leur avis, puis, s'étant retirés ensemble en privé, ils finirent par se retirer sans rendre de verdict, demandant seulement aux amis d'enterrer le corps, ce qui fut fait ce soir-là. Et bien que le coroné et le jury se réunissent plusieurs fois à ce sujet et aient eu de nombreuses délibérations, ils ne voulurent jamais rendre de verdict, mais il était suffisamment évident que l'homme avait été tué par des coups violents. Les raisons que certains donnèrent pour expliquer la suspension du verdict furent que, bien qu'il fût attesté que la personne, désormais décédée, avait été vue battue et renversée, cela s'étant produit dans une foule si confuse, aucun homme en particulier ne pouvait être désigné, de sorte qu'on ne pouvait dire qu'un tel avait fait le coup. Et si un verdict était rendu établissant que le défunt avait été tué, sans qu'aucune personne particulière fût accusée, alors la ville était passible d'une lourde amende, au bon plaisir du roi, pour avoir toléré un tel meurtre dans la ville en plein jour, non commis en secret mais publiquement, et pour n'avoir pas appréhendé le meurtrier, mais l'avoir laissé s'échapper. Entre-temps, les amis du défunt donnèrent un avis public du meurtre et envoyèrent aussi une lettre au Lord Maire, qu'ils publièrent ensuite imprimée, avec le récit de cette affaire sanglante. Dans cette lettre, il était dit « On peut supposer que vous avez entendu parler de cette chose, car elle s'est faite non de nuit, mais en plein midi, non soudainement par ignorance ou accident, mais intentionnellement et durant un long temps, et non en secret, mais dans les rues de la cité de Londres, circonstance qui aggrave fortement ce meurtre, jusqu'à la honte et l'infamie de cette célèbre cité et de son gouvernement. La personne qui diffusa une partie de ces imprimés fut emprisonnée pour sa peine, néanmoins, un autre emporta un au roi et lui raconta comment la chose s'était passée, ce à quoi le roi dit « Je vous assure que ce n'est pas sur mon avis que l'un de vos amis aurait dû être tué, vous devez en parler aux magistrats de la ville et poursuivre la loi contre eux. » La réponse du roi fut peu après également publiée imprimée, mais la violence prévalait toujours, car la personne appréhendée pour avoir diffusé les imprimés fut envoyée en prison par ordre spécial de l'échevin Brown, dont puisqu'il pourra être fait mention plusieurs fois dans cet ouvrage, cela me donne l'occasion de dire quelque chose sur le genre d'homme qu'il était. Du temps de Cromwell, il avait été très acharné contre les royalistes, surtout à Abingdon, non loin d'Oxford. Pour cette erreur, il s'efforça maintenant de se racheter en persécutant violemment les Quakers inoffensifs, autrement c'était un homme bien fait, et il pouvait commettre des cruautés avec un visage souriant. Mais davantage de ses actions pourra être rapporté plus tard. Les Quakers, voyant qu'ils ne pouvaient obtenir justice, laissèrent de côté l'affaire de la personne assassinée, car la souffrance était maintenant leur part, et ils remirent donc leur cause à Dieu. Souvent les soldats les empêchaient d'entrer dans leur maison de réunion, mais alors ils n'avaient pas coutume de s'en aller, ils se tenaient dehors, et leur nombre augmentait bientôt, puis l'un ou l'autre de leurs ministres montait généralement sur un banc, ou quelque endroit élevé, et prêchait hardiment. Étant dehors, il attirait parfois plus d'auditeurs qu'il n'en aurait eu dedans. Mais les prédicateurs étaient parfois vite tirés de là par les soldats, alors un autre se levait pour prêcher, et ainsi souvent quatre ou cinq, l'un après l'autre, étaient emmenés comme des brebis innocentes et conduits en prison avec d'autres de leurs amis, parfois jusqu'à 40 ou 50 à la fois. Cela me rappelle ce que j'entendis dire à ma mère, Judith Zinspinning, qui l'année suivante était venue en Angleterre avec William Caton et sa femme, qui vivaient à Amsterdam, pour y rendre visite à son ami, et arrivée à Londres, se rendit avec d'autres à la réunion de Bournemouth. L'entrée leur étant refusée, ils restèrent dans la rue, où elle vit un prédicateur après l'autre tiré à bas, au cri immédiat de quelques officiers, « Connétable, emmenez-le !» Plusieurs furent ainsi emmenés. Le connétable vint aussi vers elle, et voyant à sa tenue qu'elle était une femme hollandaise, la tira par la manche et dit avec admiration, « Quoi, une Quaker hollandaise ?» Mais ne se mêla pas davantage d'elle. Cette tenue de réunion dans les rues devint maintenant une chose habituelle en Angleterre, car les Quakers étaient persuadés que l'exercice de leur culte public était un devoir dont nul homme ne pouvait les dispenser, et ils croyaient que Dieu exigeait l'accomplissement de ce service de leurs mains. Et, en se réunissant ainsi dans les rues, il arrivait parfois que plus d'un prêchât en même temps. Trois ou quatre à la fois pouvaient prêcher, l'un en un endroit, l'autre en un autre, ce qui n'aurait pas été commode dans leur maison de réunion. Mais ainsi, ils obtenaient une abondance de gens pour écouter leurs messages, et parfois des personnages éminents, passant en carrosse, faisaient arrêter leur cocher. Par cette fortune inattendue, ils trouvèrent qu'il y avait une grande moisson, et ainsi leur église augmenta sous les souffrances, et en ces temps durs, elle fut assez bien purifiée de ses scories, puisque l'épreuve n'était pas pour les insincères. Car en fréquentant leurs réunions en un tel temps, on risquait d'être emprisonné, ou battu estropié, ou jusqu'à la mort, mais cela ne pouvait éteindre le zèle des hommes droits. Désormais, l'arrestation d'un prédicateur et le fait qu'un autre se leva devinrent une chose ordinaire en Angleterre, et cela dura longtemps encore, comme moi-même j'en ai été témoin. Et lorsqu'il n'y avait plus d'hommes prédicateurs présents, une femme se levait et exerçait son ministère dans l'assemblée. Non, il y en avait même qui, en année, n'étaient guère plus que des garçons, mais étaient doués d'un zèle viril et encourageaient leurs amis à la fermeté. Entre-temps, beaucoup aussi furent emprisonnés sans avoir été tirés de leur réunion, car certains furent appréhendés pour avoir seulement dit quelque chose en faveur de leurs amis, comme Rebecca Travers, qui se rendant auprès du lieutenant de la tour, le pria d'avoir compassion de certains qui étaient emprisonnés pour avoir fréquenté les réunions. Mais il se mit en colère, et lorsqu'elle s'en alla, l'un des gardiens lui adressa des paroles grossières, et quand elle l'exhorta à bien faire dans sa charge, puisque c'était la volonté du Seigneur qui lui cet emploi, Il s'en offensa tellement qu'il retourna vers le lieutenant et se plaigne qu'elle avait tenu des propos de trahison, sur quoi elle fut appréhendée et envoyée en prison. Non, les soldats grossiers étaient encouragés à la cruauté par des officiers qui ne valaient guère mieux, car eux-mêmes posaient parfois des mains violentes sur des gens paisibles, comme, entre autres, le susmentionné échevin Richard Brown, qui avait autrefois été major général sous Cromwell, et qui se comporta alors avec une férocité si outrancière que même les comédiens n'hésitèrent pas à l'exposer, par une allusion à son nom Brown, en disant « le diable était brun ». Pourtant, ses persécuteurs n'éprouvaient aucun remords d'avoir violé et profané leur prétendu sabbat par leurs œuvres de violence et de persécution. Même après qu'une loi du Parlement eût été faite pour la meilleure observation du jour du Seigneur, comme on l'appelait, ces prétendus chrétiens, qui se condamnaient eux-mêmes, poursuivirent en beaucoup d'endroits avec fureur leur persécution et leur cruauté contre leurs semblables et honnêtes voisins, sans aucun égard pour Dieu ni pour le culte religieux, quel que fût le jour, au grand opprobre et au scandale de la profession du christianisme. Conformément à la loi susmentionnée, comme on le prétendait, mes bien-aimés frères Richard Robson, Edward Burroughs et moi-même, avec beaucoup d'autres de nos fidèles amis, fûmes arrachés de nos réunions et emprisonnés à Newgate, Londres, où nous fûmes si nombreux à être entassés ensemble, tant du côté appelé Justice Roll que du côté de la chapelle de la prison, que nous avions peine à trouver un endroit pour dormir dans cette pièce. La chapelle se trouvait au sommet de Newgate, où beaucoup d'amis étaient entassés dans des hamacs, et Richard Robson et moi étions couchés sur un petit lit de sangle dans un petit trou ou placard derrière la chapelle, ouvrant sur celle-ci, de sorte que le souffle et la vapeur de ceux qui étaient couchés tout près de nous, dans la chapelle, nous arrivaient fortement. Nous choisîmes de loger du côté de la chapelle pour encourager beaucoup d'amis plus pauvres qui s'y trouvaient. Nous ne voulions pas que les amis plus pauvres soient offensés ou troublés, comme nous pensions qu'ils pourraient l'être, si nous avions pris notre logement parmi les plus riches de nos amis, du côté Justice Roll. Nous eûmes beaucoup de bonnes réunions dans la chapelle, et le Seigneur était avec nous, pour notre grand réconfort et encouragement en son nom et en sa puissance, pour l'amour duquel nous souffrîmes patiemment. Comme c'était l'été et une saison chaude, lorsque nous étions entassés en prison, certains de nos amis, qui étaient prisonniers, tombèrent malades d'une fièvre violente dont quelques-uns moururent, et ils furent examinés par l'enquête du coroner. Et lorsque certains furent sortis de prison à cause de la maladie, ils finirent bientôt leurs jours après leur étroite détention. En ces jours de violente persécution, Sir Richard Brown était le principal persécuteur à Londres et se glorifiait beaucoup de persécuter et d'emprisonner nos amis, les insultant et triomphant sur eux. Je me souviens qu'un jour, lorsque plusieurs d'entre nous furent appelés devant la cour des sessions à El Old Bailey, un ami fut poussé à témoigner contre leur persécution et leur oppression de la juste semence et du peuple de Dieu, criant aux magistrats sur le banc « Jusqu'à quand opprimerez-vous la juste semence ?» Avec d'autres paroles sur le même sujet, pendant qu'il parlait, Richard Brown, par dérision, se mit à chanter « Are you any kitchen stuff made ?» Are you any kitchen stuff made? A wall fleet waste? Will you be any wall fleet waste? Will you be any wall fleet waste? Et il chantait à peu près comme les femmes qui crient « kitchen stuff » et « wall fleet waste » en parcourant les rues de Londres. Je trouvais très étrange et indécent pour un juge de paix et échevin de Londres de se donner ainsi en spectacle sur le banc d'un tribunal, en présence du Lord Maire et du reste des magistrats, avec beaucoup d'autres également présents. Mais cela montrait comment, dans cet esprit de persécution, un persécuteur principal triomphait dans sa propre iniquité et se glorifiait de sa honte. Comme c'était notre premier emprisonnement pour infraction à la nouvelle loi, beaucoup d'entre nous furent condamnés à 3 mois de prison à Newgate. Avant l'expiration de ce temps, mon cher ami et frère Richard Robson tomba malade et mourut, et notre cher frère Edward Burroughs, qui fut maintenu prisonnier après ma libération, tomba lui aussi malade d'une fièvre et mourut. Ainsi le Seigneur jugea bon, par la mort, de délivrer ses 2 chers frères, compagnons et compagnons de travail dans l'Évangile de Jésus-Christ, dont la mort fut pleurée par beaucoup d'amis au cœur tendre, au regard du grand service qu'ils rendirent en leur temps. Et bien que j'eusse largement ma part de souffrance avec mes amis et frères en ces jours de violente persécution, et que je fusse conduit à travers des emprisonnements et des souffrances qui mirent fin aux jours de plusieurs, mes jours ont pourtant été prolongés bien au-delà de ce que j'attendais. J'étais prêt à demander humblement au Seigneur pourquoi j'avais été épargné et mes jours prolongés, quand tant d'autres de ses fidèles serviteurs étaient morts. Il me montra que mes épreuves et mon service dans son Église et parmi son peuple n'étaient pas encore achevés. Il m'a souvent rendu sensible sa providence miséricordieuse en me préservant à travers de nombreuses épreuves et exercices, étant soutenu par la parole de la foi et de sa patience, dans le royaume et la patience de notre bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Ô mon âme, loue le Seigneur, ma vie, ma force et mon salut, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. En ces jours de violente persécution, il était remarquable de voir combien certains juges étaient furieux contre nos amis. Lorsqu'ils étaient amenés prisonniers au tribunal, les juges voulaient des preuves de fait contre eux au procès. Certains de nos amis ne répondaient pas aux questions des juges, qui visaient à les amener à témoigner contre eux-mêmes. Ils réclamaient plutôt le droit de faire face à leurs accusateurs, ou demandaient où étaient leurs accusateurs. Certains juges usaient de termes tels que « Marot, Marot, vous êtes un insolent, cessez vos bavardages », les menaçant de menaces sévères et les regardant avec colère, un tel comportement étant fort indigne d'un magistrat ou d'un juge, qui devrait être impartial, rendre justice et droit également, sans préméditation ni partialité contre qui que ce soit. Après que les persécuteurs eurent jugé plusieurs Quakers, ce qui aboutit à des amendes, des emprisonnements et des déportations hors du pays pour refus de prêter serment ou pour leurs réunions religieuses, les rigides persécuteurs ne furent toujours pas satisfaits. La procédure de 3 mois et de 6 mois d'emprisonnement, avant d'en venir à la déportation ou au bannissement, était trop lente pour servir leurs desseins malveillants. Cette élimination de nous hors du pays ne se faisait pas aussi vite qu'ils le souhaitaient, bien que beaucoup d'entre nous subissent de durs emprisonnements. C'est pourquoi, en peu de temps, ils obtinrent un autre acte législatif pour abréger leur œuvre contre nous, à savoir, un acte intitulé « Un acte pour prévenir et réprimer les conventicules séditieux », lequel est détaillé plus loin. Ce qui suit est le récit de mon emprisonnement, avec d'autres amis, dans la prison du White Lion à Southwark, près de Londres, pour nous être assemblés ensemble dans le culte et le service de Dieu Tout-Puissant. Notre traitement en prison montrera la manière dont nos amis, souvent arrêtés, étaient traités en ces jours-là, pour nos réunions religieuses innocentes. Le 3 du 5e mois 1664, premier jour de la semaine, nos amis s'étaient paisiblement réunis en leur lieu habituel de réunion à Rosledown, selon leur coutume, attendant le Seigneur dans sa crainte. Et après quelque temps, George Whitehead s'adressa à l'assemblée, exhortant à la vérité et à la justice. Entre-temps, une compagnie de soldats, avec des mousquets et des mèches allumées à la main, se précipita à l'intérieur, et avant d'arriver à la porte intérieure, l'un d'eux tira un coup de mousquet. Puis deux d'entre eux tirèrent violemment George Whitehead à bas et le traînèrent, avec quelques autres, hors de la réunion. Ils se conduisirent, très grossièrement, bousculant et menaçant nos amis, en forçant beaucoup à sortir de la réunion, et en s'emportant contre les femmes et en les poussant lorsqu'elles s'approchaient de leur mari, qu'ils avaient arrêté. George Whitehead, leur demandant de montrer leur mandat pour ce qu'ils faisaient, un soldat leva son mousquet au-dessus de sa tête et dit que c'était là son mandat. Ensuite, ce dont les noms sont mentionnés ci-après dans le mandat de dépôt, avec plusieurs autres, dont certains furent pris près de la porte de la maison de réunion, et d'autres dans la rue, furent conduits au corps de garde principal sur la colline de Margaret, où on les retint quelque temps, jusqu'à ce que vinssent les soi-disant juges de paix, qui demandèrent à nos amis s'ils avaient été à la réunion où ils avaient été arrêtés. Il fut répondu qu'ils désiraient entendre quelles preuves existaient contre eux, car certains avaient été pris dans la rue, et non tous lors de la réunion. Mais ils poussèrent George Whitehead à avouer s'il n'avait pas été présent à la réunion, à quoi il répondit « Quelles preuves avez-vous contre moi, et je répondrai plus avant ?» Alors on fit venir quelques soldats pour témoigner à son sujet, ainsi qu'au sujet des autres avec lui. Ils attestèrent qu'il avait été pris dans la maison de réunion en train de parler au peuple, et ce fut là toute la preuve produite contre lui. George Whitehead s'opposa à ce que les soldats fussent admis comme témoins, les jugeant incompétents, car ils étaient venus, disait-il, d'une manière grossière et inhumaine, avec force et armes, et nous avaient ainsi appréhendés illégalement, sans qu'aucun juge de paix fût présent, ni mandat pour ce qu'ils faisaient. Au lieu de cela, l'un d'eux leva son mousquet en disant que c'était là son mandat. Ils étaient venus de façon terrifiante parmi un peuple paisible, ce qui était à la fois contraire à la récente loi sur laquelle ils prétendaient agir, contraire à la proclamation du roi, qui interdit aux soldats de saisir des sujets, sauf en temps d'insurrection effective, comme nous le leur avions dit. Selon la dite loi, les lieutenants adjoints ainsi que les officiers et forces de milice ne sont pas tenus d'aider à réprimer des réunions, à moins qu'il n'y ait un certificat, signé et scellé par un juge de paix, attestant que lui et ses assistants n'étaient pas capables de les réprimer. On leur dit aussi que la loi ne permettait pas d'entrer dans la maison d'habitation d'un père ou d'une autre personne, sauf en présence d'un juge de paix. Il rapporta qu'aucun juge de paix n'était présent lorsqu'ils avaient été arrêtés, et que leur réunion n'était ni séditieuse ni tumultueuse, ce que les officiers de milice sont tenus d'aider à réprimer. Les termes de la loi leur furent cités, et George Whitehead demanda que justice fût rendue contre ceux qui les avaient ainsi appréhendés si illégalement et avaient, ce faisant, rompu la paix. Des amis se plaignent aussi de l'un des soldats qui avait tiré son mousquet près de la porte de la réunion dans le vestibule, faisant passer une balle à travers deux ou trois plafonds et une pièce d'habitation. Cette balle fut trouvée près d'un berceau d'enfant, où l'on couchait d'ordinaire l'enfant, et l'un d'eux montra la balle. Georges Moore, l'un des juges, répondit que cela avait été fait accidentellement et non intentionnellement. Comment cela aurait pu être accidentel n'était pas évident, étant donné que le reste des soldats tenaient leurs mèches éloignées de leurs mousquets. Si cela avait été accidentel, qu'on considère si un homme ayant si peu de discernement ou de prudence était une personne ou un officier apte à venir de cette manière, mousquet chargé, parmi un peuple paisible et inoffensif, assemblé pour adorer Dieu. Mais George Moore excusa le fait que leurs mousquets fussent chargés. Et lorsque George Whitehead dit qu'aucun juge n'était présent lorsqu'ils avaient été appréhendés, George Moore répondit qu'il était présent. George Whitehead lui dit qu'il ne l'y avait pas vu, et l'on demanda aux soldats s'il avait été présent parmi eux. Ils répondirent que non, mais il dit qu'il avait été présent parce qu'il se trouvait près de la réunion, à une petite distance. Lorsque George Whitehead demanda que jugement fût prononcé contre ces soldats qui avaient rompu la paix, et requis qu'on corrigeât ou empêchât à l'avenir de telles procédures, car, dit-il, si quelqu'un est blessé par les soldats, cela vous sera demandé. Ils répondirent que nos amis pouvaient suivre la voie légale et bénéficier de la loi, mais qu'ils devraient prêter serment quant aux faits reprochés. Quant au grief contre George Whitehead, à savoir qu'il se trouvait à une assemblée illégale et avait été pris en train de parler, il répondit que ce devait être quelque acte illégal commis par les personnes réunies qui pouvaient rendre la réunion illégale, et demanda donc à savoir quel acte illégal elles avaient commis lors de leur réunion. Il leur dit que ce n'était ni la réunion en elle-même, ni le nombre de personnes réunies, qu'elles fussent 5 ou 500, qui pouvaient raisonnablement être jugées illégales si l'acte ou le motif de la réunion était licite, mais c'est un acte illégal qui rend une réunion illégale. Quant à la loi du Parlement qui est nommée, en acte tout preuve seditio conventicle, loi pour prévenir les conventicules séditieux, son intitulé devait signifier sa nature et son intention, et son préambule la raison ou la cause, à savoir qu'elle visait ceux qui, sous prétexte de conscience scrupuleuse, fomentent des insurrections lors de leur réunion. Les préambules des lois sont estimés être les clés des lois. L'un des juges dit qu'il ne savait pas si nos réunions n'avaient pas cette intention. George Whitehead lui dit que, quels que fussent ses soupçons ou ceux de tout autre, cela ne prouvait rien. Le soupçon ne prouve aucun fait, nous sommes un peuple innocent craignant Dieu. Certains des juges alléguèrent, sur la base des témoignages, que George Whitehead était à la réunion, y avait été pris en train de parler, et que la réunion dépassait le nombre de 5. À cela George Whitehead répondit, « Cela ne prouve rien quant à une infraction à la loi de ma part, à moins que vous ne puissiez prouver quelque acte illégal commis ou objet de la réunion, car ce n'est pas le nombre qui fait la transgression mais le fait s'il est illégal, et si 3 personnes se réunissent pour un acte illégal, c'est une réunion illégale ou une émeute. » Ce que les amis firent valoir à plusieurs reprises, à savoir qu'il fallait un acte illégal pour rendre une réunion illégale. Là-dessus, ils contestèrent la preuve comme insuffisante pour une condamnation ou pour prononcer une peine d'emprisonnement contre eux en vue du bannissement. Et l'on insista sur ce point comme sur une question de poids qui méritait leur réflexion. Alors George Moore, avec quelques autres, commanda au peuple de se retirer et fit disperser par les soldats ceux qui se tenaient paisiblement là, pour entendre et voir ce qu'il adviendrait de nos amis, afin qu'ils n'entendent pas leur procès, et il aurait voulu qu'on emmenât George Whitehead. Comme George Whitehead fut accusé à plusieurs reprises d'avoir parlé lors de la réunion, il demanda au juge de faire attester par le témoin ce qu'il avait dit à la réunion. Mais ils ne voulurent pas poser la question, et les témoins ne purent y répondre quand elle fut proposée par nos amis, de sorte qu'aucune infraction à la loi ne fut prouvée contre eux. Un ami leur dit, nous supposons que vous ne compterez pas comme transgression le fait de parler, lorsqu'on ne peut rien prouver contre ce qui est dit, à moins que vous ne vouliez que nous soyons muets et que nous ne parlions pas du tout. Ensuite, quant au fait de se réunir au nombre de 5 ou plus, sous couleur ou prétexte d'exercice religieux non autorisé par la liturgie, ce qui entraîne la peine prévue par la loi, George Whitehead demanda quel type d'exercice religieux la liturgie désapprouvait, et il reconnut qu'il était à la réunion et qu'il y avait parlé ayant une parole d'exhortation pour le peuple, mais qu'il n'avait toujours pas apporté la preuve, soit que la réunion fût séditieuse ou tumultueuse, soit que l'exercice de religion ou le culte que nous pratiquions. Car, dit-il, la liturgie autorise ce que les saintes écritures autorisent, et si j'avais une parole d'exhortation à prononcer selon le don de Dieu reçu, cela est autorisé par les écritures, donc non désapprouvé par la liturgie, de sorte que vous n'avez pas prouvé l'infraction à la loi contre moi. À cela ils ne répondirent rien. Le greffier dit que c'était un dilemme. Certains amis furent relâchés, parce que les soldats ne pouvaient pas témoigner s'ils les avaient pris dans la rue ou à la réunion. mais voyant qu'ils étaient résolus à poursuivre certains de nos amis, George Whitehead leur dit que, s'ils avaient en eux autant de modération, ils n'avaient pas besoin et n'étaient pas tenus d'aller jusqu'à la rigueur de la loi, au point de les emprisonner 3 mois, puisque la loi permettait toute durée n'excédant pas 3 mois. Mais s'ils voulaient les emprisonner au maximum, George Whitehead demanda qu'il y ait un espace de prison suffisant et qu'ils ne soient pas étouffés et détruits par le fait d'être nombreux à être entassés ensemble, comme plusieurs l'avaient été auparavant dans la même prison. Car si c'était le cas, leur dit-il, cela vous sera demandé, et Dieu plaidera leur cause, et vous demandera compte de ce que vous avez fait contre eux. Après plusieurs échanges entre eux, plus qu'il n'en est ici fait mention, les amis, refusant de payer chacun une amende de 5 livres, furent écroués sans caution ni main prize, amende en lieu et place de l'emprisonnement. Pendant que les juges les écrouaient, il y eut un tonnerre, des éclairs et une pluie extrêmement violents, et l'eau monta si haut dans la rue que les soldats ne purent les conduire en prison. Ils les gardèrent donc dans la rue sous la pluie, puis les ramenèrent dans une maison jusqu'à ce que l'eau fût redescendue, et alors ils furent conduits très tard en prison, très mouillés. Les deux geôliers, Stephen Harry et Joseph Roll, exigèrent peu après de chacun de 3 sidés, par semaine pour le logement ou 2 sidés, chacun pour la chambre nue, dont la meilleure partie était inondée d'eau. Mais ils ne voulurent pas céder à l'oppression du geôlier, ni lui verser d'emblée 10 shillings qu'il exigeait pour cette première nuit, mais demandèrent qu'on les laissât à leur liberté, et que s'ils recevaient de lui quelque courtoisie ou accommodement, ils en tiendraient compte selon les raisons qu'ils trouveraient, mais qu'ils ne pouvaient ni payer pour une prison, ni soutenir l'oppression. Stephen Harry les menaça du quartier commun, où couchaient les criminels, et leur commanda d'y aller, ce qu'ils refusèrent, comme étant un lieu impropre à de vrais hommes. Pourtant il les fit entrer dans le quartier commun parmi les dits criminels. Les amis l'avertirent de ne pas permettre qu'on les maltraitât, mais ils n'en firent pas grand cas, disant « C'est votre propre faute », et semblèrent encourager les criminels contre nos amis. Dès que les geôliers eurent tourné le dos, les criminels exigèrent de chaque ami une demi-couronne, jurant ce qu'ils leur feraient. Et comme les amis ne pouvaient satisfaire à leurs demandes injustes, ils se jetèrent sur eux, fouillèrent leurs poches et prirent l'argent qu'ils trouvèrent chez plusieurs. Après quoi le geôlier vint à la fenêtre, et les criminels lui dirent avec assurance ce qu'ils avaient fait, combien ils avaient pris, et qu'ils devaient encore en obtenir davantage d'eux, ce qu'il ne leur reprocha nullement. Ils dirent qu'ils espéraient qu'il les soutiendrait dans ce qu'ils faisaient, il leur fit rendre le manteau qu'ils avaient pris à un ami, après lui avoir pris son argent, et ils riaient quand ils menaçaient les amis, juraient et blasphémaient, les geôliers aussi jurèrent contre eux, et menacèrent de les faire plier. Alors les criminels poussèrent un cri s'écriant, « Dieu merci les gars, nous leur retomberons dessus ». Outre ces mauvais traitements que nos amis subirent de la part des geôliers et des détenus, le quartier était un trou si sale et puant, et tellement bondé de ces criminels, et de plusieurs femmes couchées parmi eux que certains appelaient leurs épouses, que nos amis n'avaient nulle part où reposer la tête, ni un tabouret pour s'asseoir. Mais lorsqu'ils étaient là, ils consentaient à s'asseoir par terre, parmi la vermine, dans un lieu infect. On se plaigne de ces abus grossiers à certains des juges qui les avaient fait écrouer. La nuit suivante, le geôlier fut contraint de laisser aux amis une place pour loger à part des criminels. Une copie du mandat de dépôt suit, sur Ray, SS, au gardien de la prison de Sa Majesté pour le comté. Attendu que George Whitehead, George Patzon, Joseph Dunstan, Gilbert Hutton, George Rollins, Edward Pattison et Timothy Anglin ont été aujourd'hui pris lors d'une assemblée séditieuse ou conventicule et en ont été reconnus coupables devant nous. En conséquence, conformément à la dite loi, nous les avons condamnés chacun à une amende de 5 livres qu'ils refusent de nous payer sur le champ. Par conséquent, au nom de Sa Majesté, nous vous ordonnons de recevoir leurs corps dans votre prison et de les y garder en sûreté sans caution ni main prize pour l'espace de 3 mois à compter de ce jour. Et de cela, veillez à ne manquer en aucune façon, sous les peines et sanctions mentionnées dans la loi, datée du 3 jour de juillet 1664, John Bromfield, John Lantal, George Moore. Quelques jours après mon écrou à la prison du White Lion, une autre épreuve m'advint. On me fit sortir de prison devant John Lantal, au sujet du complot dans le nord de l'Angleterre, en 1663, étant injustement accusé par un homme du Yorkshire, une sorte d'avoué ou d'homme de loi, d'avoir été mêlé à ce complot parce que j'étais né dans le Westmoreland. Et bien qu'il ne pût produire aucune preuve contre moi, il persista néanmoins dans sa mauvaise jalousie et ses soupçons, affirmant que j'étais cette personne qu'il nommait et qu'il disait être dans le complot, assurant que mon nom n'était pas Whitehead, mais... On me conduisit alors en bateau à Whitehall, gardé par des mousquetaires, le geôlier étant aussi avec nous, et l'on me fit entrer dans une pièce près du bureau du secrétaire, où le geôlier m'attendit. L'homme de loi, qui avait faussement suggéré ce crime contre moi, entra et au bout d'un moment envoya quelqu'un pour m'examiner, moi et mon accusateur avec lui. Puis on m'interrogea sur mon nom, l'examinateur regardant une liste de noms qu'il tenait à la main. Je lui donnai un compte exact de mon nom et de mon innocence, mais mon accusateur me contredisait avec assurance, disant « Votre nom n'est pas Whitehead, mais Marshten, ou un nom semblable. » Je lui dis que je connaissais certainement mon propre nom, comme je l'avais déclaré. Sur le champ, un ancien gentleman entra, entendant mon accusateur me dire que mon nom n'était pas Whitehead, et le contredit, disant « Oui, son nom est Whitehead. Il a écrit plusieurs livres, dans lesquels son nom est imprimé, ce qui le fit rentrer en lui-même et empêcha tout examen ultérieur. » Cet accusateur, et poursuivant affairé et mensonger, entra au bureau du secrétaire et peu de temps après, ressortit et avertit le geôlier de ne pas me relâcher tant qu'il n'aurait pas reçu l'ordre du secrétaire. Qu'il eût un ordre pour avertir le geôlier était douteux, car l'homme semblait très acharné contre moi sans motif, ni connaissance préalable de moi, ni moi de lui. Mais le voyant si sûr de sa poursuite injuste, je me demandais en moi-même s'il n'avait pas été suborné pour me poursuivre, ou s'il le faisait pour se faire un nom ou obtenir quelque récompense pour une prétendue découverte. Quoi qu'il en soit, je jugeai meilleur et plus sûr pour moi de me confier au Seigneur mon Dieu pour ma préservation et de me résigner à sa volonté. Et je désirai que s'il permettait que je fusse poursuivi et jugé au péril de ma vie, j'ai l'occasion de défendre et d'innocenter notre sainte profession et les amis, ainsi que ma propre innocence de toutes ces œuvres de ténèbres, telles que complots et conspirations contre le roi ou le gouvernement. Je résolus de le faire si j'étais conduit au lieu d'exécution. Néanmoins, j'écrivis de prison une lettre à Lord Arlington, alors secrétaire d'État, pour établir ma propre innocence contre ces fausses suggestions et insinuations faites contre moi au sujet du complot susmentionné. Elle lui fut remise, et je n'en entendis plus parler, mais je fus relâché de prison avec les autres, lorsque les 3 mois pour lesquels nous avions été écroués furent expirés. Le 16 jour du 8e mois 1664, étant le premier jour de la semaine, nos amis étaient réunis dans la crainte du Seigneur, selon leur manière habituelle, dans leur lieu de réunion au Bull and Mouse, près d'Aldersat à Londres. George Whitehead s'y trouvait et déclara la vérité dans la puissance et la crainte du Seigneur Dieu. Au bout d'un moment, une grande troupe d'hommes armés de halbardes astérisques entra dans la réunion et peu après ferma la porte de la maison de réunion, tenant dehors beaucoup de gens qui auraient voulu entrer. Les halbardiers restèrent là et écoutèrent tranquillement près d'une heure, à ce qu'on pensa. Seul un homme grossier tenta de tirer George Whitehead vers le bas, mais ne le fit pas. Ensuite vinrent le Lord Maire et une compagnie avec lui, et Richard Brown suivit. Peu après l'entrée du maire, un homme grossier tira violemment George Whitehead vers le bas alors qu'il parlait, et le poussa près de la porte. Le maire lui demanda son nom, qui lui dit « Astérisque, une halbarde est une arme médiévale composée d'une pointe de lance fixée à une longue hampe ou pique. Elle a été remplacée par la baïonnette et était munie d'un fer de hache. » Richard Brown entra assez rudement dans la réunion, insultant et tournant nos amis en dérision. Alors l'un d'eux rendit témoignage de la présence du Seigneur dans notre réunion de la manière suivante. « Le Seigneur nous a conduits ici, et la présence du Seigneur est parmi nous, et tel est mon témoignage. » Richard Brown répondit, « C'est le diable qui vous a conduits ici, et le diable est parmi vous, et tel est mon témoignage, en riant et en agitant les bras. » À ces paroles, « Le diable est parmi vous », les amis répondirent aussitôt, « C'est depuis que vous êtes venus qu'il est parmi nous. » Il menaça de les envoyer à Bridewell, mais George Whitehead exhorta Richard Brown et le maire à la modération et à la civilité envers nous. Richard Brown répondit, « Si vous êtes civils envers nous, nous serons civils envers vous. » George Whitehead demanda au maire de produire la loi qu'ils avaient enfreinte et qu'ils puissent avoir un procès équitable. Richard Brown répondit, « Oui, vous aurez un procès équitable à la session demain, puisqu'elle n'est pas encore terminée. » Puis, quelques halbardiers emmenèrent George Whitehead et certains de ses amis dans la rue, et après les avoir gardés un certain temps, ils les envoyèrent par groupes à Newgate sans leur joindre de mandat, étant condamnés à une amende d'un shilling chacun ou à 6 jours d'emprisonnement. Dans le même temps, un mandat particulier fut envoyé au geôlier de la part du maire et de Richard Brown afin de détenir William Smith, James Carter, William Pocke, Elizabeth Chapman et Jeanne Bowdle, prisonniers pour une prétendue 3e infraction, jusqu'à leur libération par la voie régulière de la loi. C'est ainsi que nos amis, hommes et femmes, furent fréquemment emprisonnés et que les prisons en furent remplies en ces jours-là, car leurs persécuteurs étaient dans une grande ardeur et une grande hâte de les faire bannir en vertu de la seconde loi du Parlement faite à cette fin. S'ils pouvaient les faire condamner pour une 3e infraction, comme ils appelaient notre réunion pour adorer le seul Dieu vivant et vrai, ce dont il suffisait que quiconque parmi nous fît seulement l'aveu pour qu'il ou elle fût considéré comme contrevenant, et fut rapidement condamné par cet aveu, que ce soit pour une première, une seconde ou une 3e infraction. La brièveté de notre dernier emprisonnement ainsi que la petitesse des amendes d'un shilling chacun, semblaient conçues pour nous faire sortir plus vite du pays par le bannissement, après condamnation pour 3 prétendues infractions. Il ne serait peut-être pas inopportun de donner ici quelque aperçu du contenu de la seconde loi du Parlement, conçue non seulement pour notre emprisonnement, mais aussi pour notre bannissement hors de la terre de notre naissance, et cela avec plus de célérité que ne pouvait l'être par la première loi, bien que le Seigneur notre Dieu ne permît pas que ce dessein de bannissement prît un tel effet général contre nous, comme le désiraient nos persécuteurs malveillants, car par ses jugements, il déjoua en grande mesure nos adversaires. Cependant, beaucoup de nos amis innocents furent condamnés au bannissement, seuls quelques-uns en comparaison furent effectivement embarqués ou bannis hors du pays. Le préambule et les peines de la loi suivent 16 car 2 ch. IV, elle est intitulée « Loi pour prévenir et réprimer les conventicules séditieux » dans le préambule le 25 déli ch. I est déclaré en vigueur, et aussi, afin de pourvoir à un remède supplémentaire et plus prompt contre les pratiques croissantes et dangereuses des sectes séditieuses et d'autres personnes déloyales qui, sous prétexte de conscience scrupuleuse, entretiennent lors de leurs réunions des insurrections, comme l'expérience récente l'a montré. Voilà le préambule et la raison donnée pour la loi. Il y est ensuite décrété que si une personne âgée de 16 ans ou plus, sujet, etc., est présente à quelque assemblée, conventicule ou réunion, sous couleur ou prétexte d'un exercice de religion, autrement qu'il n'est permis par la liturgie de l'Église d'Angleterre, toute telle personne, étant reconnue coupable devant de juges de paix, sera écrouée en prison ou à la maison de correction, pour y demeurer sans caution ni main press, pour toute durée n'excédant pas 3 mois, à moins que cette personne ne verse aux 6 juges telle somme d'argent n'excédant pas 5 livres, à laquelle ils pourront l'avoir condamnée. Et pour la seconde infraction, la personne reconnue coupable encourait la peine d'emprisonnement pour toute durée n'excédant pas 6 mois, sans caution ni main press, à moins que la personne condamnée ne verse telle somme d'argent n'excédant pas 10 livres, à laquelle les juges l'auraient condamnée. La peine pour la troisième infraction était l'emprisonnement sans caution ni main press jusqu'aux prochaines assises générales trimestrielles, assises, libération de prison, etc., pour y être inculpé, traduit en justice, etc. Et, une fois condamné, il devait être porté au jugement que ce contrevenant serait transporté au-delà des mers, dans l'une quelconque des plantations étrangères de Sa Majesté, Virginie et Nouvelle-Angleterre seules exceptées, pour y demeurer 7 ans. Et les dites juridictions respectives étaient également habilitées à délivrer des mandats aux divers constables, etc. Là où se trouvait le patrimoine, immobilier ou mobilier, de ce contrevenant à transporter, leur enjoignant de saisir entre leurs mains les revenus des terres, et de mettre sous scellés et vendre les biens de la personne à transporter, afin de rembourser les frais du shérif pour la conduite et l'embarquement de la personne à transporter. Et il est aussi décrété que, si le contrevenant reconnu coupable pour la troisième infraction paie 100 livres au tribunal, il sera libéré de l'emprisonnement, du transport et du jugement pour le même fait. Et il est en outre décrété que la même peine d'emprisonnement, jugement, mise en accusation et procédure s'appliqueront à tout contrevenant chaque fois qu'il récidivera après cette troisième infraction. Néanmoins, il peut être libéré et libéré par le paiement de la même somme que celle payée pour l'infraction immédiatement précédente, avec, en plus, une somme additionnelle et augmentée de 100 livres pour chaque nouvelle infraction commise. Mais cette loi sévère fut rendue temporaire, ne devant rester en vigueur que 3 ans après la fin de cette session et jusqu'à la fin de la session suivante du Parlement, après l'expiration des 3 ans, et pas plus longtemps. Et en effet, il était temps que cette loi persécutrice et cruelle expire, car son exécution fut une grande oppression et la ruine de nombreux sujets innocents et paisibles du roi, et de leurs familles, surtout de ceux appelés Quakers. Pendant 3 ans, les persécuteurs s'efforcèrent de contraindre les Quakers à retourner dans l'Église d'Angleterre ou à les faire bannir. Par leurs emprisonnements fréquents menant au bannissement, les persécuteurs apportèrent le déshonneur à leur Église, à leur clergé et à leur profession, faisant, par leur cruauté, emprisonnement, amendes et saisies de biens pour paiement des amendes, de nombreuses veuves, de nombreux orphelins de pères, et réduisant à la pauvreté d'honnêtes familles laborieuses. Nos assemblées religieuses furent souvent troublées et dispersées par les agents, officiers et soldats de la persécution. Beaucoup d'entre nous furent appréhendés et conduits devant les magistrats, des témoins furent appelés et examinés, sans qu'aucun fait mauvais fût prouvé contre quiconque parmi nous, ni aucune atteinte à la paix publique ou sédition, encore moins quelque complot d'insurrection ou toute autre pratique dangereuse quelle qu'elle fût. Bien que ceux qui étaient arrêtés eussent été dans une réunion silencieuse, les juges persécuteurs s'efforçaient d'en faire un conventicule séditieux, alors qu'ils n'avaient aucune preuve de sédition ni d'acte illégal, ni le moindre indice de preuve contre cela dans aucune de nos réunions. La manière dont ils procédaient pour obtenir la condamnation contre beaucoup d'entre nous était celle-ci. Une fois appréhendée et conduite devant les magistrats, et les officiers ou témoins appelés, Il déclarait avoir pris telle personne dans un conventicule ou une réunion. Le magistrat demandait « Qui faisait-il ? » Si le témoin répondait qu'il avait pris telle personne prêchant ou enseignant, ou priant, on lui demandait alors « Qu'a-t-il dit ?» Le témoin ne peut généralement se souvenir d'une seule phrase de la prédication ou de la prière. Pourtant, le magistrat persécuteur tenait pour acquis que c'était un conventicule séditieux, bien qu'il n'eût aucune preuve d'aucune sédition prêchée, enseignée ou proférée dans la prière, ni aucune preuve ni connaissance de ce qui avait été dit, et il prononçait néanmoins rapidement son jugement, enregistrait la condamnation et emprisonnait les personnes accusées. Si l'une des personnes prises avouait qu'elle s'était réunie pour adorer Dieu en esprit et en vérité, ou pour attendre Dieu, les magistrats persécuteurs s'emparaient aussitôt de ces paroles en disant que cela suffisait, ou qu'elles avaient assez avoué pour les condamner pour conventicule ou assemblée illégale. Si les témoins ou indicateurs n'avaient aucune preuve à donner d'un acte manifeste ou d'un exercice religieux accompli lors de la réunion, mais seulement que tous étaient silencieux, comme cela a souvent été attesté, les magistrats ou juges persécuteurs déclaraient néanmoins cette réunion silencieuse, émeute ou assemblée illégale, alors qu'il n'y avait pas la moindre apparence d'émeute, de force ou de violence, ni rien fait ou dit in terrorem, ni aucune atteinte à la personne ou au bien de qui que ce soit. Lorsqu'un juge persécuteur, avec un constable et d'autres, entrait dans l'assemblée en fanfaronnant et en frappant du pied, que tous fussent silencieux ou que l'un prêchât, il commandait soit qu'on tirât les gens hors de la réunion, soit que l'on fermât les portes pour les y maintenir. Après que leur nom avait été pris, les officiers et d'autres personnes grossières tiraient et poussaient les gens dehors, jusqu'à être là de ce travail d'arrestation. Les juges emprisonnaient alors ou condamnaient à l'amende beaucoup des personnes les plus connues, bien qu'aucun acte d'une quelconque mauvaise tendance ne fût prouvé. Les juges persécuteurs recevaient facilement des informations contre nos réunions religieuses, si ignorantes et impertinentes qu'elles fussent. Si un indicateur envieux disait aux juges que les Quakers s'étaient réunis sous couleur d'exercice religieux, contrairement à la liturgie et à la pratique de l'Église d'Angleterre, l'indicateur ou témoin se présumait juge du droit et du fait, alors qu'il ne comprenait probablement même pas ce que signifiait le mot « liturgie », ni ne pouvait expliquer la pratique de l'Église d'Angleterre, qui ne se limitait pas à la seule lecture de la prière commune. Si le témoin déclarait qu'il y avait prédication ou prière dans une telle réunion, mais ne pouvait se souvenir d'un seul mot ou d'une seule phrase prononcée dans l'une ou l'autre, comme cela s'est souvent produit, une preuve aussi sotte, ignorante et impertinente était néanmoins souvent acceptée pour condamner. Suite, le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.